marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il est certain qu'il faut un regard historique pour comprendre le temps présent.
Le militarisme au Venezuela.
Chavez a fait de l'armée l'institution clé de son gouvernement. Les militaires sont-ils vraiment un pilier de son projet? Je lui ai posé la question.
Claro, pero por supuesto, es una institución pilar del proceso.
Évidemment, cette institution est un pilier du processus démocratique, de la révolution démocratique. Souvenons-nous de ce qu'a dit Abraham Lincoln. La démocratie doit être un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. L'armée aujourd'hui se consacre au peuple, à l'éducation, la santé, l'entretien des logements. Donc, elle effectue un travail fondamentalement démocratique. Elle est un soutien social de la démocratie, plus qu'armée. Triste serait la démocratie qui se maintiendrait par la force des fusils ou des baïonnettes.
Ainsi parlait le prédécesseur de Maduro. Pas de démocratie qui ne soit sociale, a toujours répété le président Chavez. Le Vénézuélien ne se conçoit pas seul, il est un sujet collectif. Pas d'État qui ne soit civico-militaire, ajoutait le commandante. En 1992, il avait tenté un coup d'État militaire qui n'avait qu'à demi échoué puisqu'il avait pu ensuite créer autour de lui et de son groupe d'officiers une coalition d'à peu près toutes les gauches. Le soldat bolivarien, frère du peuple, en était la figure de proue. C'est ainsi qu'il était parvenu au pouvoir légalement avec une forte majorité en 1998. Victime à son tour en 2002 d'une tentative de coup d'État, il renouvellera à peu près entièrement tout l'encadrement militaire et renforcera, au nom de la défense de la Révolution, le rôle des forces armées. La troupe, qui peut être doublée par une milice, est ainsi constituée de 365 000 hommes. Dans la pénurie généralisée qui s'est instaurée, c'est elle qui tente de garantir la distribution et la commercialisation des produits de base. Au sommet de l'armée se tient un groupe de 1200 généraux. Deux fois plus que dans l'armée américaine. On les appelle les soleils. Un bloc, à vrai dire, opaque, qui n'est pas sans rappeler les états-majors rentiers de l'armée algérienne. Ils collectionnent les postes de ministres et de gouverneurs, ils se redistribuent en dollars les revenus des hydrocarbures, et quand ceux-ci diminuent, comme c'est le cas aujourd'hui, il leur reste les ressources minières, le contrôle des importations et bien d'autres trafics, au premier rang desquels, maintenant, celui des stupéfiants. Maduro n'a jamais porté d'autre uniforme que celui de chauffeur de bus. Il n'a pas les talents et le charisme de Chavez, disparu en 2013. Les gradés lui ont cependant gardé leur appui. Depuis que le président de l'Assemblée nationale, Guaido, incarne une issue au désastre, ils ne l'ont pas encore lâché, sauf une minorité d'entre eux. Mais pour combien de temps ? Leur intérêt à moyen terme n'est pas de rester dans un système qui sombre, mais pour les convaincre de changer de veste, combien d'assurances faudra-t-il leur donner ? Celle par exemple de garder des fiefs économiques profitables et d'obtenir une protection judiciaire ?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Paola Vasquez-Lezama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous appartenez au CNRS. Vous allez nous parler aussi de votre vie au Venezuela, parce que l'idée n'est pas de dire que tous ceux qui soutiennent Guaido aujourd'hui sont de grands démocrates, nécessairement. L'idée non plus n'est pas de dire que le Venezuela, tel que vous l'avez connu dans votre jeunesse, était une démocratie idéale.
En effet, il fallait les Vénézuéliens demandaient un changement d'une manière forte. Et souvent, ces changements étaient incarnés par l'idée d'un militaire. Ça s'inscrit dans une tradition militariste ancienne. Et comme les événements ont été assez violents en 89 et en 92, les besoins d'ordre social s'est marié, disons, avec cette besoin de changement.
Alors, on va évoquer les deux premiers moments, l'autre millénaire, avant que Chavez ne soit président, 89, puis plus tard 92. 89, où êtes-vous ?
Je suis à l'Université centrale du Venezuela le 27 février. On est allé, il y avait eu, c'était extrêmement tendu parce que Carlos Andrés Pérez avait annoncé le président élu donc en décembre 88. Il annonce un paquet de mesures, un ensemble de mesures visant à réajuster l'économie qui d'ailleurs ne seront jamais appliquées et dont surtout la montée du prix de l'essence. Et l'essence, c'est toujours un acquis pour les Vénézuéliens, qu'elle soit extrêmement pas chère en fait, parce que c'est un pays pétrolier où nous avons la notion que l'essence doit être pratiquement donnée. Et surtout à l'époque, il y avait déjà une situation économique difficile dans les milieux populaires.
Donc, et c'est émeute, une étincelle. Il y a les émeutes dans presque toutes les villes.
Et presque toutes les villes. Ça a commencé par Guarenas. J'étais à l'université à ce moment-là. Guarenas, c'est la banlieue de Caracas, la banlieue est. Et les transports en commun avaient été pillés. Et les pillages, c'était assez impressionnant parce que c'était l'un magasin derrière l'autre, un commerce derrière l'autre. Et après, dans tout Caracas, l'après-midi, j'étais à l'Avenida Libertador de Caracas et c'était une scène inouïe. On n'était pas habitué à un tel degré de violence. C'est une colère contenue.
Ordre est donné à la troupe par les gradés et le gouvernement de Pérez de tirer. Vous écrivez dans un livre dont on parlera tout à l'heure. Le militarisme compassionnel, vous nous expliquerez ce que ça veut dire, mais c'est pour tout à l'heure. Là, il n'y a pas de compassion. Vous écrivez des troupes inexpérimentées braquaient leurs mitrailleuses sur les bâtiments surpeuplés des quartiers populaires, d'où partaient des tirs, les soldats visaient tout ce qui bougeait et achevaient tout ce qui ne bougeait plus. Beaucoup plus tard, le président Chavez, élu, et qui tenait tribune régulièrement dans « Allô, Presidente ». Il se portait tel Jupiter devant le peuple, à la portée de tous ses interlocuteurs. Ça, c'est le numéro 269 de Allô Presidente, et c'est un 27 février, c'est-à-dire une date anniversaire du Caracaso que vous venez de nous décrire.
Allô Presidente, numéro 269. Comment allez-vous, mes amis ? 27 février, comment allez-vous, mes amours ? Mes petits amours. Je veux dire, vous, les garçons et les filles, vous êtes mes amours. 27 février, une journée pour la réflexion, qui a commencé depuis plusieurs jours déjà. Comme chaque année, la réflexion nationale avec ses opinions les plus variées sur la question du Caracaso. En tant que soldat, nous avions tellement honte, tellement mal, après cette tragédie. Cette tragédie. Nous nous sommes souvenus de cette étincelle, Bolivar, quand il a dit
« Maldito el soldado, que vuelva las armas ».
Maudit soit le soldat qui retourne les armes contre son peuple.
Devenu président, Chavez se souvient de ce moment où il était encore officier intermédiaire, mea culpa. Au nom de Bolivar, au nom d'une formule de Bolivar, qu'on retrouve très souvent dans son langage et puis dans le vocabulaire politique de votre pays, Paola Vasquez.
Je trouve qu'il y a, en effet, c'est un élément rhétorique qui revient sans cesse, mais c'est aussi, il y a beaucoup d'imposture dans ce que dit Chavez. Pourquoi ? Parce que les militaires, finalement, qui ont participé dans cette répression n'ont jamais été ni jugés ni inculpés. Parce que Chavez a toujours fait de la sorte, même sous Chavez, c'est ce qui lui reproche surtout toutes les associations des familles et des victimes, COFAVIC et PROVEA, toutes des organisations qui se sont battues pendant 30 ans déjà pour essayer d'inculper ceux qui ont réprimé d'une manière comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Donc il y a surtout cette... il peut dire qu'il a honte, mais les pratiques continuent à être les mêmes. Il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est un mea culpa presque personnel. Et c'est une revendication dans la rhétorique qu'on a changé, que les forces armées vénézuéliennes ont changé, mais surtout, il ne fallait pas le faire sortir les soldats pour un désordre civil.
Comment peut-on discuter avec vous? Parce que vous vous attachez systématiquement dans tous vos travaux à observer ce que font les associations de victimes, ce que disent les victimes à qui on fait des promesses qu'on ne tient pas. Suivons le fil de Chavez. Il monte en grade. Nous sommes maintenant le 4 février 1992. Depuis un moment, il prépare avec quelques camarades et un groupe de 500 hommes une tentative de coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez qu'il ne parvient pas à arrêter. Il a cependant le temps d'intervenir avant de se rendre en studio.
Camarades, c'est regrettable, mais pour le moment, les objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas été atteints. Ici, à Caracas, nous n'avons pas réussi à prendre le contrôle du pouvoir. Vous vous êtes très bien comportés, mais il est temps d'éviter des effusions de sang. Il faut réfléchir. De nouvelles occasions se présenteront et le pays devra définitivement s'orienter vers un avenir meilleur. Alors écoutez mes paroles, écoutez le commandant Chavez qui vous envoie ce message. Réfléchissez et déposez les armes, parce que nos objectifs n'ont pas été atteints au niveau national et il est aujourd'hui impossible d'y parvenir. Camarades, écoutez ce message de solidarité. Je vous remercie pour votre loyauté, votre courage, votre générosité. Devant le pays et devant vous, j'assume la responsabilité de ce mouvement militaire bolivarien.
Et il va se retrouver en prison à 80 km de Caracas, à Yaré, qui va devenir un véritable lieu de pèlerinage. Il paraît qu'il avait même un assistant qui tenait son agenda et toutes sortes de pèlerins de toutes les gauches vénézuéliennes viennent le consulter et préparer avec lui un avenir bolivarien où les forces armées constitueraient le corps politique fondamental de la révolution. Un bolivarisme de gauche.
En effet, il a surtout cette opération assez extraordinaire de convertir un échec militaire dans une victoire nationale. C'était le travail du coup d'État des 92. Et c'est surtout comment construire un leader politique qui soit possible d'élire, d'arriver au pouvoir via des élections. À ce moment-là, la gauche vénézuélienne en 92 et dans les années, au début des années 90, elle était extrêmement faible. C'est-à-dire, elle n'avait pas pu capitaliser les mécontentements du Caracas. Et la seule manière, disons, pour arriver au pouvoir, c'était de suivre quelqu'un qui était déjà dans la scène publique avec une telle force. Parce que là, dans cet extrait, on a entendu deux phrases que Chavez a dit à la télé. Je l'ai vu d'ailleurs directement à la télé, à la maison, à côté de mes parents. La première, c'est « Pour l'instant, on n'a pas réussi ». Et après, il y a une phrase « J'assume la responsabilité ». Le fait de dire « J'assume la responsabilité » a eu un impact extrêmement important. Parce qu'on disait, c'est-à-dire la crise des représentativités à ce moment-là était telle que quelqu'un qui dise qu'il assumait la responsabilité des actes était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ça va l'amener à avoir une grande popularité. Ces quelques minutes de caméra ont fait de Chavez un personnage extrêmement populaire, même si l'échec militaire était très fort. C'est-à-dire, ils n'avaient pas réussi à faire presque rien de ce qu'ils s'étaient proposé, oui, avec des coups très importants, parce qu'il y a eu beaucoup de morts lors du 4 février 92.
C'était pas un échec, c'était un essai qu'il a réussi à transformer.
En effet.
Il y a des martyrs qui sont morts, mais il y a aussi ceux qui, parmi les officiers intermédiaires, ont survécu au coup d'État, qui vont trouver certainement un rôle politique. Quand, à partir de 1998, élu légalement, avec 56 ou 57% des voix, je crois, Chavez devient président de la République. Il manque à la fête juste Ali Primera. Ali Primera, que vous citez beaucoup dans votre livre sur le militarisme compassionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, militarisme compassionnel? Vous nous l'expliquerez. Ali Primera, c'est la musica des protestas au Venezuela. C'est-à-dire
Oui, c'était l'icône vénézuélienne de la musique de protesta. Et ce qu'il fait, c'est qu'il reprend l'instrument, les cuatro, avec des rythmes et des mélodies qu'on peut assimiler au folklore de l'ouest du pays, avec des paroles extrêmement engagées. Et lui, il a été au Nicaragua, il a voyagé, il a fait ses tournées comme tous les chanteurs protestataires de l'Amérique latine des années 60. Il vient du secteur del Valle et c'est quelqu'un de très de Caracas. Et il meurt dans les années 80, c'est-à-dire il n'a jamais accompagné le chavisme, mais Chavez s'approprie parce qu'il y a, ce sont des paroles avec beaucoup d'images, c'est extrêmement imagé et donc c'est une musique aussi extrêmement populaire. Je ne sais pas qui lui a conseillé de s'en servir parce qu'il s'en sert surtout des paroles et des chansons lors des meetings, comme Chavez prenait la parole pendant très longtemps, donc là c'était facile pour lui de mobiliser des images.
On l'entendra juste fredonner. Ouais. Un instant, quelques paroles d'Ali Primera, et chez Ali Primera, on retrouve toujours le même thème. Si Bolivar, le Christ, revenait sur terre, lui le libérateur, que dirait-il du statut des pauvres ?
Ali Primera, profeta y cantor.
El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le Venezuela est-il devenu militariste avec Paola Vázquez Lezama? Nous sommes maintenant en 98-99, mais vous quittez le pays quand tout s'allume?
En effet, c'est surtout c'est la musique de l'université et c'est le moment. L'université centrale a été toujours pour moi quelque chose d'extrêmement fort, marqué par la vie universitaire et je me suis jamais éloignée jusqu'au moment de venir ici.
Oui, mais en 98-99, vous venez en France.
Je viens en France. J'étais professeur à l'époque à l'université centrale à l'école de médecine et combiné ça avec mon travail à l'UNICEF et j'ai décidé de faire une thèse en France et de venir faire une thèse en anthropologie de la maladie parce que j'ai travaillé avec les Indiens de l'ouest du Venezuela.
UNICEF compassionnel.
Voilà, oui. C'est l'interrogation autour de l'humanitaire et qu'est-ce que c'est la souffrance, la maladie, et comment ça s'est pris en charge par l'État et quelle est l'essence qu'on donne à la souffrance humaine.
Peu après son élection, Chavez va se porter au secours des victimes de la tragédia, encore un moment fondateur pour notre sujet, le militarisme.
25 000 morts ou disparus dans la seule région de Caracas, c'est la dernière estimation du nombre de victimes causées par les inondations. Dans l'état voisin de Miranda, ce barrage a cédé, formant une vague haute de 2 mètres. 2500 sinistrés attendent leur évacuation. On se bouscule devant les hélicoptères. Le sauvetage à grande échelle vient pourtant de commencer. Sur l'aéroport de Caracas, les blessés affluent. Tous les moyens aériens, civils ou militaires sont réquisitionnés, ainsi que 1000 soldats. Sanglé dans son uniforme, le président Chavez explique sa stratégie.
Il y aura des parachutistes pour intervenir partout sur le terrain, mais aussi l'infanterie de marine qui devra se positionner le long du littoral, car c'est en partant des plages qu'il sera possible de dégager des voies d'accès pour les secours. Le but de l'opération, c'est qu'il faut absolument ouvrir des brèches.
France 2, décembre 1999.
C'est un événement qui marque un avant et un après dans l'histoire du pays, la tragédie. Et moi, je m'intéresse à ça parce que c'est la manière dont Chavez s'est approprié de cet événement. Ça laissait voir des choses. Bien sûr, on ne pouvait pas voir le futur, mais c'était très intéressant de voir comment les militaires ont hébergé dans les casernes, dans toutes les casernes du pays, les sinistrés de cette catastrophe et ont mis en place leur pris en charge avec un programme qui s'appelait des dignifications de la famille vénézuélienne. Donc on mobilisait déjà des éléments de moraux, de sauver les pauvres de leur état indigne parce qu'il fallait les rendre dignes. Et avec une prise en charge aléatoire, surtout que on a pensé d'une manière très militariste qui s'ancre dans une vision militaire de la géographie vénézuélienne, de déplacer les sinistrés venant des quartiers urbains de Caracas, qui sont toujours dans ces collines, et les faire aller d'une manière autoritaire, habiter dans les campagnes. Et on ne peut pas faire vivre dans les campagnes une population urbaine depuis des générations. Donc il y a après des retours qui se font d'une manière difficile dans ces refuges en ville où j'ai fait mes enquêtes de terrain. J'ai fait mes enquêtes de terrain dans les refuges militaires et après dans les refuges de la ville.
Et votre livre qui est paru en français sous le titre « Ça y est, on y revient, le militarisme compassionnel » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, il est tiré de ces enquêtes. Compassionnel et autoritarisme, là.
En effet, c'est un paradoxe très intéressant qui vient par exemple de toute la réflexion autour d'un état d'exception, d'annulation du droit et des garanties constitutionnelles avec des actions humanitaires. C'est comme si on demande donc la suspension du droit pour venir au secours des pauvres et de ceux qui souffrent. Et là, la question, c'est que lorsqu'on fait cela, s'instaure toute une série de pratiques qui peuvent être extrêmement autoritaires et ça accompagné dans les contextes vénézuéliens de l'idée qu'il n'y a que les militaires qui peuvent bien faire les choses. Et c'est ça le militarisme à la Vénézuélienne. C'est que derrière tout changement social, il faut un militaire fort qui les mette en place et qui les fasse.
Avec de l'ordre et dans la verticalité. Alors on pourrait, mais gardons notre sujet l'armée, mais on pourrait ici raconter longuement comment la séparation des pouvoirs disparaît peu à peu, comment le judiciaire est soumis à l'exécutif, comment le législatif devient, s'il n'est pas soumis, résiduel, mais si on en reste au rôle de l'armée sur le terrain, racontez-nous comment aujourd'hui, maintenant, on passe à la situation de pénurie telle qu'elle a commencé à la fin du chavisme et telle qu'elle se développe à l'époque de son successeur Maduro. L'armée, elle est là pour distribuer les vivres.
En ce moment, oui. C'est-à-dire qu'il y a une participation très forte dans tout ce qui relève la distribution de nourriture. Tous les réseaux d'approvisionnement de nourriture vénézuélien et des biens et services souvent sont gérés par les militaires. Pas systématiquement lorsqu'on les voit, mais les chaînes des services, les entreprises qui font cela et surtout les entreprises chargées de l'importation des vivres et des nourritures, très souvent sont des militaires ou sinon c'est la garde nationale bolivarienne qui prend en charge l'importation et les douanes et tout ce qui dérive d'une économie devenue complètement dépendante des importations.
Mais ceux qui profitent de l'importation, c'est un peu comme dans l'économie des conteneurs pour l'armée algérienne, ce sont des officiers intermédiaires ou déogradés, mais ceux qui distribuent sur le terrain ce que on appelle des cartons-clapes. C'est les simples soldats, non? C'est quoi les cartons-clapes?
Pas souvent. En fait, c'est les conseils communaux qui distribuent. C'est pas une distribution gratuite. Déjà, il faut les payer. Mais pour pouvoir acquérir ces cartons-clapes, il faut avoir les carnets de la patrie. Et les carnets de la patrie, c'est une carte d'identité qui est en même temps la carte du Parti Socialiste Uni du Venezuela. Donc, parfois, les militaires sont souvent dans la distribution. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des pillages. Et l'un des éléments un peu transversaux de cette histoire violente qu'on raconte, c'est la question du pillage. Et déjà, dans les Caracas, en 89, c'était une question d'organiser les pillages et de dire qu'est-ce qui est bon de piller ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a une telle répression et participation, c'est très paradoxal aussi, dans les pillages. Et après, en 89, lors de la tragédie, l'état d'exception aussi est justifié pour le contrôle des pillages, mais ce sont les soldats qui, sur place, organisent et font les pillages. Donc, il y a, et là, avec la question, dans une situation de pénurie comme aujourd'hui, donc on vient en 2019, et la question du pillage est une crainte récurrente et est souvent l'argument utilisé pour militariser tout ce qui relève de la distribution des vivres et des nourritures.
Là, on entre dans des zones obscures que vous allez peut-être nous éclairer après qu'on aura entendu le témoignage d'une capitaine, la capitaine Salazar, recueilli par l'excellent reporter de Radio France au Venezuela, Benjamin Illy. La capitaine Salazar a des ennuis depuis plusieurs années pour avoir participé à des réunions politiques au sein du corps des officiers intermédiaires, pour avoir émis des critiques, et ces critiques vont peut-être surprendre parce qu'elles mettent en cause la responsabilité des hauts gradés jusque dans le narcotrafic.
Actuellement, je suis fugitive. J'ai été prisonnière politique et il y a encore une centaine de militaires torturés, détenus, car selon Nicolas Maduro et son régime de narcotrafiquants, ils ont voulu se rebeller. En 2015, Leydette Salazar, capitaine de l'armée de l'air vénézuélienne pendant 13 ans, est condamnée à 8 ans de prison par un tribunal militaire. Elle est accusée de conspiration et de rébellion. Un procès expéditif. Ils n'ont pas trouvé de preuves, pas d'armes. Aucun élément probant sur le fait qu'on était en rébellion. C'était un procès politique ordonné par Nicolas Maduro. Nous participions juste à une réunion, à une discussion pour évoquer la situation du pays, la politisation des forces armées, la corruption, la mort d'étudiants lors des manifestations de 2014, la misère, la famine. Je suis une militaire, mais je suis aussi vénézuélienne, citoyenne. Si tu penses différemment, on te considère comme un traître à la patrie. Un engagement citoyen qui lui vaudra de passer plus de 2 ans derrière les barreaux. J'ai été torturée, humiliée, affamée. J'en suis venu à peser 43 kilos. Me donner 2 ou 3 petits bouts de viande par jour. On me servait souvent de la nourriture avariée. Les jeunes, les vieux se meurent dans les hôpitaux sans médicaments, sans nourriture, et les forces armées sont en putréfaction. Trafic de drogue, corruption. Et elles sont aux ordres d'un seul homme, Nicolas Maduro, et de tous les délinquants derrière lui.
On peut juste noter qu'elle appartient, la capitaine Salazar, à ce corps des officiers intermédiaires auquel appartenait Chavez au début de la période que nous avons évoquée dans les années 1980. Et là, elle est en train de dire que chez les hauts gradés, du moins, la putréfaction s'est installée, la corruption, jusqu'au narcotrafic.
C'est extrêmement délicat de parler de ça, en fait. Lorsque vous avez dit au début des soleils, c'est un terme très familier au Venezuela pour indiquer justement les hauts gradés, parce qu'ils ont des soleils dans leur uniforme pour indiquer qu'ils sont des généraux. Mais il y a eu, après, c'est via un journaliste qui a dénoncé que l'existence d'un cartel des soleils, en faisant donc allusion au cartel des narcotrafiquants. Et c'est d'après ce qu'on sait par la presse et par les chercheurs spécialisés, et ça peut coûter très cher de s'intéresser à cette affaire, bien sûr, au Venezuela, c'est que il fonctionne comme une sorte de hub de distribution de la drogue. C'est-à-dire, le Venezuela ne produit pas, ne raffine pas, il n'y a pas de production ni de culture de coca au Venezuela, mais l'armée vénézuélienne s'en servirait des installations de l'État vénézuélien, aéroports, ports, etc., pour faciliter la distribution, et reste donc, c'est une sorte de société de services des narcotrafiquants du Mexique.
C'est pas si difficile à imaginer, Paola Vasquez, parce que voilà des hauts gradés qui sont habitués à toucher la manne des hydrocarbures et les revenus des hydrocarbures. hydrocarbures ont diminué, qui avaient des postes de gouverneur, de ministre, et maintenant les administrations sont démunies. Il faut bien qu'ils se reconvertissent pour garder leur niveau de vie.
Oui, et là, ce qu'elle décrit, la capitaine, c'est la militarisation de la justice et l'entrée de la justice militaire dans la vie civile vénézuélienne et l'abolition donc d'une possibilité d'état de droit et d'une justice civile. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on fait plus des audits dans les institutions publiques pour les achats et pour les appels d'offres, etc. Donc, c'est une sorte d'ouverture des institutions de la sorte que les hauts gradés puissent donc gérer et aller jusqu'à la banque centrale vénézuélienne. Donc,
il y a eu un déplacement de ce qui se passait en Colombie vers le Venezuela, et ce qui se passait en Colombie, on le sait, était marqué par la place des paramilitaires de ce qu'au Venezuela, on appelle maintenant dans une zone grise les collectivos. Donc vous dites que pour l'avenir, c'est un enjeu de première importance.
Oui, parce que c'est des groupes, c'est-à-dire c'est une sorte de mot passe-partout, les collectivos. Ce sont des groupes qui ont été armés. Je me souviens à l'époque qu'il y avait les chefs d'un des collectivos qui disaient ouvertement qu'ils étaient armés, qu'ils ne pouvaient pas dire la provenance de leurs armes, et en insinuant que ça venait justement de l'État vénézuélien. Et là, on a ouvert une manière d'utiliser, parce que c'est une question de s'en servir de la violence criminelle.
Et donc, pour la transition, s'il y en a une, il faudra faire un sort à l'armée régulière, à la milice, et aussi aux collectivos, dont vous dites, ils sont peut-être 1000. Merci à vous, Paula Vosquez, votre livre aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, la réalisation Audrey Ripouille, la préparation Adèle Caïto, Anna Messardier.